chapitre 26. Monseigneur Guitrel, évêque de Tourcoing, adressa au président de la République la lettre suivante, dont le texte fut publié in extenso dans la Semaine religieuse, La Vérité, L'Étendard, Les Études sérieuses et par plusieurs autres périodiques du diocèse. Monsieur le Président, avant de porter à vos oreilles de justes plaintes et de revendications trop bien fondées, laissez-moi jouir dans un court moment de la douceur profonde de me sentir en parfait accord avec vous sur un point qui doit en effet nous être commun. Souffrez que, pénétrant les sentiments qui ont dû vous agiter en ces longs jours d'épreuves et de consolations, je m'unisse à vous dans un élan patriotique. Oh, combien a dû gémir votre cœur généreux quand vous avez vu cette poignée d'hommes égarés jeter l'injure à l'armée sous prétexte de défendre la justice et la liberté, comme s'il pouvait y avoir une vérité et une justice en opposition avec l'ordre des sociétés et la hiérarchie des puissances établie par Dieu lui-même sur la terre. Et de quelle joie ce même cœur a été rempli au spectacle de la nation levée tout entière, sans exception de parti, pour acclamer notre vaillante armée, l'armée de Clovis, de Charlemagne, de Saint-Louis, de Godefroy de Bouillon, de Jeanne d'Arc et de Bayard, pour embrasser sa cause et venger ses injures. Oh, avec quelle satisfaction n'avez-vous pas contemplé la vigilante sagesse de la nation, déjouant les complots des orgueilleux et des méchants. Et certes, on ne peut nier que l'honneur d'une si louable conduite ne revienne à la France entière. Mais votre regard est trop perspicace, monsieur le Président, pour n'avoir pas reconnu l'Église et ses fidèles à la tête des soutiens de l'ordre et des puissances. Ils y étaient au premier rang en saluant avec respect, avec confiance, l'armée et ses chefs. Et n'était-ce point là la vraie place des serviteurs de celui qui a voulu être nommé le Dieu des armées et qui, selon la forte expression de Bossuet, les a sanctifiés en prenant ce nom? C'est ainsi que vous trouverez toujours en nous les plus sûrs appuis de la règle et de l'autorité. Et notre obéissance, que nous n'avons jamais refusée aux princes, nos persécuteurs, ne se lassera jamais. Puisse, en retour, votre gouvernement nous regarder avec des yeux de paix et nous rendre l'obéissance aimable. Cependant, nos cœurs exultent en contemplant cet appareil guerrier qui nous fait respectable au dehors, et en nous voyant vous-même environné sur votre siège d'honneur d'un brillant état-major, à l'exemple du roi Saül, si grand par le courage et le caractère qui attachait à sa personne les guerriers et les braves. Nam quincunque viderat Saul verum fortem et taptum ad proelium sociebat eum sibi. Livre des Rois 14:52. Oh, que je voudrais terminer cette lettre comme je l'ai commencée par des paroles d'allégresse et de contentement, et qu'il me serait agréable, monsieur le Président, d'associer votre nom vénéré aux conclusions de la paix religieuse, ainsi que je viens de l'associer aux avantages remportés sous nos yeux par l'esprit d'autorité sur l'esprit de discussion. Mais, hélas, il ne saurait en aller ainsi. Il faut que je vous présente un grand sujet d'affliction et que je contriste votre âme par le spectacle d'un grand deuil. J'accomplirai un devoir inéluctable en ramenant votre esprit sur une plaie saignante et qu'il faut fermer. Je suis intéressé à vous dire des vérités douloureuses et vous êtes intéressé à les entendre. Mon devoir pastoral m'oblige à parler. Assis par la grâce du souverain pontife sur le siège du bienheureux loup, successeur de tant de saints apôtres et de tant de pasteurs vigilants, serais-je l'héritier légitime de leurs travaux admirables si je n'osais les continuer? Alii laboraverunt et vos in labores eorum introistis. Jean 4:38. Il convient donc que ma voix, si faible, s'élève et monte jusqu'à vous. Il convient aussi que vous prêtiez à mes paroles une oreille attentive, car le sujet dont je viens vous entretenir est digne des méditations d'un chef d'État. Princeps veroea, quaed nigna sunt principe cogitabit. Isaïe 32:8. Mais comment l'aborder ce sujet sans se sentir immédiatement envahi par une douleur accablante? Comment vous exposer, sans verser des larmes, l'état des religieux dont je suis le chef spirituel? Car c'est d'eux qu'il s'agit, monsieur le Président. en pénétrant dans mon diocèse, quel spectacle déchirant a frappé mes regards. Sur le seuil des maisons pieuses consacrées à l'éducation des enfants, à la guérison des malades, au repos des vieillards, à l'instruction de nos lévites, à la méditation des mystères, je n'ai vu que des fronts soucieux et des regards affligés. Là où naguère régnait la joie de l'innocence et la paix du travail, s'étendait maintenant une sombre inquiétude. Des soupirs montaient vers le ciel, et de toutes les bouches s'échappait le même cri d'angoisse. « Qui recueillera nos vieillards et nos malades? Que vont devenir nos petits-enfants? Où irons-nous prier ?» Ainsi gémissaient aux pieds de leur pasteur, en lui baisant les mains, les religieux et les religieuses du diocèse de Tourcoing, dépouillés de leurs biens, qui sont le bien des pauvres, des veuves et des orphelins, le pain des clercs, le viatique des missionnaires. Ainsi nos réguliers exhalaient ces plaintes touchantes sous le coup de la ruine, attendant que les agents du fisc, violant la clôture de nos vierges et la grille des sanctuaires, vinssent saisir les vases sacrés sur l'autel. Tel est l'état où nos communautés religieuses sont réduites par l'application de ces lois d'accroissement et de ces lois d'abonnement, si l'on peut appeler loi les dispositions d'un texte imbécile et criminel. Ces expressions, Monsieur le Président, ne sembleront pas trop fortes si on examine la situation faite aux religieux par ces mesures spoliatrices auxquelles on prétend donner force de loi. Il suffira, pour partager mon sentiment à cet égard, d'une minute d'attention. En effet, les congrégations étant soumises aux impôts de droit commun, il est inique de leur en faire payer d'autres. C'est une première injustice qui saute aux yeux. Je vous en ferai paraître d'autres, mais déjà sur ce point, permettez-moi, Monsieur le Président, d'élever une protestation aussi ferme que respectueuse. Je n'ai pas l'autorité suffisante pour parler au nom de l'Église tout entière. Toutefois, je suis certain de ne pas m'écarter de la bonne doctrine en proclamant ce principe essentiel de droit que l'Église ne doit pas l'impôt à l'État. Elle consent à le payer. Elle le paie à titre gracieux, mais elle ne le doit pas. Ses antiques exemptions découlaient de sa souveraineté, car le souverain ne paie pas. Elle peut les revendiquer toujours, à tout moment, et dès qu'il lui conviendra de le faire. Elle ne peut pas plus renoncer au principe de ses exemptions qu'à ses droits et à ses devoirs de reine. Dans le fait, elle montre une admirable abnégation, voilà tout. Ses réserves étant faites, je poursuis ma démonstration. Les congrégations sont soumises en matière de finances, premièrement au droit commun, comme je viens de le dire, deuxièmement à la main morte, troisièmement à un impôt de 4% sur le revenu, loi de 1880 et 1884, quatrièmement au droit d'accroissement, dont on a prétendu corriger les effets monstrueux par un droit dit d'abonnement que le gouvernement prélève annuellement sur la part présumée des membres décédés. Il est vrai que, par une fausse douceur, qui n'est en réalité qu'un raffinement d'injustice et de perfidie, la loi dispose que les établissements hospitaliers ou scolaires pourront être allégés de cette charge en raison de leur utilité, comme si les maisons où nos saintes filles prient Dieu de pardonner les crimes de la France et d'éclairer ses maîtres aveugles n'étaient pas aussi utiles et plus utiles encore que les pensionnats et les hôpitaux. Mais il fallait diviser les intérêts par la différence de traitement. On espérait ainsi disloquer la résistance. C'est encore dans cet esprit qu'on a fixé à 30 centimes par 100 francs pour les congrégations reconnues et à 40 centimes pour les congrégations non reconnues la taxe annuelle sur la valeur des biens meubles et immeubles, en sorte que ces dernières, incapables de posséder, sont bonnes pour payer et même pour payer plus que les autres. Je me résume. Aux impôts de droit commun s'ajoutent, pour accabler nos congréganistes, ceux de la main morte, ceux de 4% sur le revenu et ceux dits d'accroissement, non point allégés mais alourdis par ceux dits d'abonnement. Est-ce tolérable? Y a-t-il un exemple au monde d'une si odieuse spoliation? Non. Vous êtes contraint, Monsieur le Président, de reconnaître qu'il n'y en a point. Aussi, quand les religieux de mon diocèse ont demandé à leur pasteur ce qu'ils devaient faire dans l'état où ils étaient réduits, pouvais-je leur répondre autrement que par ces seuls mots « résister ». C'est un droit et un devoir que de s'opposer à l'injustice. Résister, dites « nous ne pouvons pas, non possumus ». Ils y sont résolus, monsieur le Président. Et toutes nos congrégations, autorisées ou non, enseignantes, hospitalières, contemplatives, destinées aux retraites ecclésiastiques ou vouées à la préparation des missions étrangères, toutes, malgré l'inégalité du fisc à leur égard, sont résolues à une égale résistance. Elles ont compris que, sous des aspects divers, le traitement que leur infligent vos prétendues lois est uniformément inique et leur commande une action concertée pour la défense commune. Leur résolution est inébranlable. En l'appuyant, après l'avoir préparée, je suis assuré de ne point manquer à l'obéissance que je dois aux princes et aux lois et que je vous accorde pleinement par principe de religion et de conscience. Je suis assuré de ne point méconnaître votre puissance qui ne peut s'exercer que dans la justice. Ecce injusticia regnabit rex. Paralip 22-22. Dans son encyclique « Diuturnum illut », sa sainteté Léon XIII a expressément déclaré que les fidèles sont dispensés d'obéir au pouvoir civil dès que ceux-ci donnent des ordres manifestement contraires aux droits naturels et divins. Et si quelqu'un, est-il dit en cette admirable lettre, se trouvait placé dans l'alternative d'enfreindre ou les ordres de Dieu ou ceux du prince, il devrait suivre les principes de Jésus-Christ et répondre à l'exemple des apôtres « mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes ». Agir ainsi, ce n'est pas mériter le reproche d'être désobéissant, car les princes, dès que leur volonté est en opposition avec la volonté et les lois divines, excèdent leur pouvoir et corrompent la justice. Dès lors, leur autorité est sans force, parce que là où elle n'est plus juste, elle n'est plus. Ce n'est pas, croyez-le bien, sans de longues méditations, que j'ai encouragé mes religieux dans la résistance nécessaire. J'ai considéré les dommages temporels qui pourraient en résulter pour eux. Ces considérations ne m'ont point arrêté. Quand nous dirons à vos publicains « non possumus », vous tenterez de vaincre notre constance par la force. Mais que faire pour cela? Saisir les congrégations reconnues? L'oserez-vous? Les congrégations non reconnues, le pourrez-vous? Aurez-vous le triste courage de vendre nos meubles et les objets consacrés au culte? Et s'il est vrai pourtant que ni l'humilité des premiers ni la sainteté des seconds ne puissent les soustraire à votre rapacité, il faut que vous sachiez, il faut que les femmes et les enfants de vos collaborateurs sachent que du fait de procéder à une telle vente, on encourt l'excommunication dont les effets terribles effraient même les pécheurs endurcis. Il faut que tous ceux qui consentiraient à acheter quelque objet provenant de ces ventes illicites sachent qu'elles s'exposeraient à la même peine. Et si même nous sommes dépouillés de nos biens, chassés de nos demeures, le dommage n'en sera point pour nous, mais pour vous, qui vous couvrirez des hontes d'un scandale inouï. Vous pourrez exercer contre nous les plus cruelles représailles. Nulle menace ne saurait nous intimider. Nous ne craignons ni la prison, ni les liens. Ce sont les bras chargés de chaînes des pontifes et des confesseurs qui ont délivré l'Église. Quoi qu'il arrive, nous ne paierons pas. Nous ne le devons pas, nous ne le pouvons pas. Non possumus. Avant d'en arriver à cette extrémité, j'ai cru devoir, monsieur le Président, vous faire connaître la situation dans l'espoir que vous l'examinerez avec ce zèle du cœur et cette fermeté de l'âme que Dieu communique aux puissants de la terre qui se fient à lui. Puissiez-vous, avec son aide, remédier aux maux intolérables que j'ai exposés à vos yeux. Dieu veuille, monsieur le Président, Dieu veuille que, quand vous examinerez l'injustice du fisc à l'écart de nos religieux, vous vous inspiriez moins de vos conseillers que de vous-même. Car si le chef peut prendre des avis, c'est le sien qu'il doit suivre. Selon la parole profonde de Salomon, le conseil est dans le cœur de l'homme comme une eau profonde. Sic ut aqua profunda, sic consilium in corde viri. Proverbe 25. Daignez agréer, monsieur le Président, le profond respect avec lequel, etc. Signé Joachim, évêque de Tourcoing. La lettre de sa grandeur, Monseigneur l'évêque de Tourcoing, avait été rendue publique le 14 janvier. Le 30 du même mois, l'agence Havas communique aux journaux l'information suivante. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à l'Élysée. il a été décidé devant ce conseil que le ministre des Cultes formerait devant le Conseil d'État un recours pour abus contre Mgr Guitrel, évêque de Tourcoing, au sujet de sa lettre au président de la République. C'était l'Anneau d'Améthyste, troisième tome de l'histoire contemporaine d'Anatole France.